Bonjour et bienvenue, chers amis auditeurs de Radio Grand Ciel. J'ai une voix, une toute petite prise. Je vous salue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Et j'ai un personnage très important avec moi aujourd'hui dans le studio, une personnalité qui a écrit beaucoup sur l'histoire de la philosophie médiévale. Je salue dans le studio avec moi Monsieur l'abbé Édouard Jauneau. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui et je voudrais commencer tout de suite notre émission en parlant de votre excellent livre « L'âge d'or des écoles de Chartres ». Et c'est un livre qui est encore en vente, que je recommande à tous ceux qui aiment le Moyen-Âge et sa pensée. Peut-être pourriez-vous, cher monsieur l'abbé, nous commenter l'image sur la couverture. Nous voyons trois personnages, un évêque assis sur son trône épiscopal, un scribe en dessous, et puis un personnage à cheval qui tient un faucon. Quel est le lien entre ces trois personnages, monsieur l'abbé ?
Voilà, le chevalier, merci de votre aimable présentation, d'abord trop élogieuse. Le chevalier, ce jeune chevalier, c'est Boès. Or, Boès était de l'ordre sénatorial, il vivait au VIe siècle de notre ère, il était chrétien, mais il n'était pas habillé comme il est habillé sur la page, sur la couverture de mon petit livre. Et on l'a représenté en chevalier médiéval avec le faucon dans la main gauche. Et de la main droite, il tend une banderole sur laquelle sont écrits les premiers mots de ses traités sur la Trinité. Et il donne ça à un évêque. Cet évêque est Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers, qui avant d'être évêque de Poitiers, était chanoine de Chartres. Et puis, Gilbert de la Porée, lui-même, fait descendre vers un petit personnage assis sous lui une autre banderole qui sont les premiers mots du commentaire de Gilbert de la Porée. Et dans mon petit livre, je présente ça comme une image de ce qu'on appelle la translatio studii. C'est un vaste thème, n'est-ce pas ? La culture, les arts, les sciences sont nés au paradis terrestre. Et de là, ils sont passés en Égypte. Je parle de la fable, du récit fabuleux qu'on faisait au Moyen-Âge. Ils sont passés en Égypte. D'Égypte, ils sont passés en Grèce. De Grèce, ils sont passés à Athènes et ajoutaient les maîtres de l'université de Paris, d'Athènes, de Rome, à Paris. Paris, la nouvelle Athènes. Voilà ce que j'ai voulu dire, c'était la translatio studii, le transfert de la culture. La culture va d'un pays à l'autre et elle subit des éclipses en certains endroits, mais elle ne meurt jamais, elle circule.
Très belle image. Alors, il y a un lien entre ces personnages à travers ces banderoles, qu'on appelle aussi des phylactères. Et Gilbert de la Porée est un personnage un peu inquiétant quand même, parce que n'a-t-il pas été accusé d'une certaine forme
oui,
d'hérésie ?
Il a été un peu inquiété par deux de ses archidiacres d'abord, quand il est arrivé à Poitiers, pour son enseignement sur la Trinité. On l'accusait, à tort certainement, d'enseigner non pas la Trinité, mais une quaternité. C'est-à-dire une divinité qui se divisait ensuite en trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Gilbert s'est assez bien défendu et il a évité la condamnation. Ce que le pauvre Abélard n'évitera pas, évidemment, lui sera condamné.
À cause de Saint Bernard qui...
Saint Bernard a joué un rôle, oui, un grand rôle, et aussi peut-être Guillaume de Saint-Thierry, qui était ami de Saint Bernard, et abbé de l'abbaye de Saint-Thierry, près de Reims.
Alors nous sommes déjà dans l'intérieur, le centre même de la philosophie médiévale grâce à votre oui. introduction. Vous avez également publié, il y a quelque temps, un que sais-je sur la philosophie médiévale.
Ah ben oui, on croyait que j'étais une étoile montante à ce moment-là. Et c'est le professeur Pierre-Maxime Schull, lequel était juif et pieux juif, qui à ce moment-là dirigeait les collections philosophiques aux presses universitaires de France. Il m'a demandé de le faire, je l'ai fait avec joie, l'enthousiasme de la jeunesse. Et puis, il a eu quelques succès, ça a été traduit en toutes sortes de langues, y compris le japonais. Mais ma déception, lorsque j'ai visité le Japon, à Tokyo, je suis allé dans une école plutôt chic, je dois dire, dirigée par les sœurs de Saint-Paul de Chartres, qui avaient une certaine collection de que sais-je, mais
mon
livre brillait par son absence.
Alors, vous avez l'attitude tout à fait compréhensible de tout auteur. On aimerait évidemment que les livres se trouvent dans tous les rayons des bonnes écoles et du monde.
Mais alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. J'ai été déçu à ce moment-là, mais j'étais encore beaucoup plus déçu. Il y a eu, je crois, 3 éditions en français, 2 éditions en portugais, 1 ou 2 en espagnol, enfin, je ne sais plus tout à fait le détail de cela. Et je m'attendais, après la 3e édition, qu'il y en aurait une 4e. J'avais fait en effet mon livre pour être lu dans le train, si vous voulez. Mais ça n'a pas plu à mes collègues, ça.
Non, le livre, il est très bien. Et là, vous êtes en train de parler de la philosophie éditoriale. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Restons dans la philosophie médiévale. Est-ce qu'on peut la résumer, la pensée médiévale, en un si petit livre qui est très dense?
Vous savez, ça doit toujours être fait, n'est-ce pas ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a un effort au Moyen-Âge vraiment original et qui n'existe pas dans l'Antiquité. Par exemple, qui n'existe pas au temps de Boèce. On ne pourrait pas parler de philosophie chrétienne vraiment au temps de Boèce. Car quand Boèce est dans sa prison, il a été mis en prison par Théodoric, et il a une apparition. Et cette apparition, c'est la philosophie. Ben, la philosophie qui le console n'est pas du tout la philosophie chrétienne. Il n'y a pas un mot de chrétien dans le discours que tient Dame Philosophie à Boèce pour le consoler. Et c'est la philosophie antique. On considérait la philosophie un peu comme la médecine, si vous voulez. Il n'y a pas de médecine chrétienne, il y a une médecine tout court. Et la philosophie, il n'y a pas une psychiatrie chrétienne, il y a une psychiatrie tout court. Donc la philosophie était cela. Et la religion était au-dessus. Si bien qu'ici, au Portail Royal, pour parler de choses peut-être que nous verrons plus tard, on se dit, mais on a toujours parlé du platonisme chartrain. Et Platon n'est pas représenté alors qu'Aristote est représenté. Pourquoi? Mais parce qu'Aristote n'est pas représenté comme philosophe. Il est représenté comme technicien, comme dialecticien. Et il prend donc place avec la dialectique parmi les 7 arts libéraux. Mais la philosophie est autre chose. Et c'est vraiment au Moyen-Âge, et bien avant 12e siècle chartrain, que l'on a pensé qu'il y avait une philosophie chrétienne.
Comme la musique fait partie des 7 arts libéraux, une petite interruption musicale.
Oui, avec...
Thank you.
Après cette douce musique, le Salve Regina, interprété par une jeune soprano allemande sous la direction de Helge Burgrabe, nous voilà à nouveau avec notre invité de ce jour, Monsieur l'abbé Édouard Jeuneau. J'aurais presque tendance à dire vous êtes vous-même philosophe. En tous les cas, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages traduits dans plusieurs langues du monde sur la philosophie du Moyen-Âge. Nous avions parlé de votre livre sur l'âge d'or des écoles de Chartres. Et les écoles de Chartres, vous les connaissez assez bien. Mais qu'est-ce qu'en réalité l'école de Chartres? Ou que sont les écoles de Chartres?
Oui, j'ai envie, vous me pardonnerez, de parler un peu de moi-même, c'est-à-dire comment je suis arrivé aux écoles de Chartres. Ben, je suis arrivé aux écoles de Chartres parce que, juste, de très peu de temps, une année après mon ordination sacerdotale, on m'a nommé professeur de philosophie au grand séminaire. Et là, je me suis intéressé à l'école de Chartres. Il y avait un chanoine de Chartres, le chanoine Clerval, qui avait écrit au siècle précédent une monographie complète de l'école de Chartres, à laquelle il faut toujours se référer, parce qu'il va des temps les plus anciens jusqu'à la Renaissance, pratiquement. La thèse de Clerval est, du point de vue historique, fondamentale. Moi, je me suis intéressé surtout au XIIe siècle, qui était la période la plus brillante. Mais j'ai eu, comme Joséphine Baker, j'ai eu deux amours dans ma vie. J'ai eu le IXe siècle, la période carolingienne, avec Jean Scott Erigène, et le XIIe siècle, avec les maîtres chartrains, en particulier un maître que je rattache à l'école de Chartres, Guillaume de Conches. Voilà, quel a été mon parcours. Alors, entre les deux, entre le IXe et le XIIe, il y a tout de même deux siècles. Et lorsque, il y a quelques années, on a fait un colloque dédié à Saint-Fulbert ici, j'ai commencé mon discours de la façon suivante. J'ai navigué, ou plus seulement, j'ai volé, plus exactement, j'ai volé du IXe au XIIe siècle, un peu lorsque je me rends au Canada, je passe au-dessus du Labrador. Je n'ai jamais eu envie de m'y arrêter. Et c'était pour dire que je n'étais pas très compétent pour parler de Fulbert de Chartres, lequel pourtant est considéré comme le fondateur de l'école de Chartres. Voilà.
Donc il y a beaucoup de penseurs brillants dans ces écoles de Chartres, des écoles de pensée. En réalité, qu'est-ce que c'est que la philosophie? N'est-ce pas à partir des auteurs de l'Antiquité que l'on étudiait pour la connaissance monde, les commentaires ensuite chrétiens que l'on faisait autour de ces auteurs?
Vous avez tout à fait raison. Ce qui fait l'originalité de la pensée du XIIe siècle, on a parlé de renaissance du XIIe siècle. C'était évidemment une renaissance. Pas comme la renaissance du XVe siècle, évidemment, qui, elle, a été favorisé par l'arrivée de manuscrits grecs en Occident et de traductions nouvelles à partir du grec. Tandis que au XIIe siècle, on n'avait pas grand-chose. On avait quelques œuvres logiques d'Aristote et on avait de Platon le Timée, qui est le dialogue dans lequel Platon expose non pas la création, le terme est inadapté, mais l'organisation du monde par le démiurge. Dieu n'est pas créateur, il est organisateur d'un cosmos, éternel d'ailleurs. Mais c'est donc à partir de ces quelques textes traduits depuis longtemps que l'on a essayé à se connecter avec l'Antiquité grecque.
Et vous avez plus particulièrement étudié Jean Scott Érigène. Quelle
oui.
est sa pensée ou qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce penseur du
19e
siècle?
Voilà, il faut savoir que c'est un Irlandais, comme le nom Érigène l'indique. Eriu, en vieil irlandais, veut dire, ou Erin, veut dire Irlande. Érigène, donc originaire d'Irlande. Il est arrivé vers 850, par là, à la cour de Charles, probablement un peu avant d'ailleurs, à la cour de Charles le Chauve. Et puis très tôt, il s'est distingué comme le maître principal de l'école du palais. Il a écrit un gros traité en 5 livres qui s'appelle Perifiseon, c'est-à-dire au sujet des natures. Il distingue 4 catégories de nature, c'est pourquoi le mot est au pluriel. Et ce livre, au XIIe siècle précisément, au XIIIe siècle, fut condamné par le pape Honorius III. Et la condamnation n'avait jamais été retirée. Et moi, j'ai préparé cette édition dans un institut qui s'appelle l'Institut Pontifical d'Études Médiévales. Vous voyez quand même que l'Église n'est pas rancunière.
Mais quel était donc le reproche qu'on faisait
à ce livre ?
Eh bien,
on lui reprochait un peu le panthéisme et puis beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il était par ailleurs très attaché à la pensée grecque, à la pensée des pères grecs. Et il était, par exemple, dans une position délicate à propos du filioque, qui procède du Père et du Fils, qui fut ajouté par Charlemagne, et non pas par le pape, au IXe siècle. Alors, toutes ces choses-là, au XIIIe siècle, le rendaient suspect. Il a donc été condamné. Mais notre pape, que j'admire beaucoup, Benoît XVI, a, l'an dernier, très exactement le 20 juin 2010, a fait un discours très bon en faveur de Jean Scott, en disant qu'il y avait beaucoup de choses bonnes à prendre chez lui. Et j'ai voulu lui montrer ma reconnaissance en lui portant mon édition.
Est-ce que vous avez eu l'occasion
de
la remettre?
Oui, j'ai eu l'occasion, je vais vous le dire dans un instant. J'y étais incité d'autant plus qu'il ne citait pas mon édition dans son discours. Mais ça, c'est son secrétaire qui est à blâmer. Alors, je suis arrivé avec mes 5 gros volumes, là, et j'avais une assez bonne place. À l'entrée de la place Saint-Pierre, des gens de la police du Vatican m'ont pris tous mes livres, et je me trouvais donc dans la situation de quelqu'un qui s'approche vers le Saint-Père, les mains vides, et qui doit lui expliquer qu'il lui apporte quelque chose.
Là-dessus, une petite pause musicale. Alors, Monsieur l'abbé Jeannot, vous voulez nous raconter comment cela s'est passé auprès de Benoît XVI, quand vous aviez été reçu en audience pour apporter au pape des livres que vous avez écrits sur la philosophie médiévale, notre thème d'aujourd'hui, et que l'on vous avait enlevé les livres avant que vous n'arriviez auprès de sa sainteté.
Oui, il faut dire que je n'aurais jamais demandé moi-même d'aller voir le pape, mais j'ai à Toronto un ami, médecin d'ailleurs, qui a comme violon d'ingre, si on peut dire, en inversant la comparaison, la peinture. Et il a fait deux portraits du pape, un premier en habit de cœur et un deuxième en chape. Et en novembre dernier, il avait obtenu une audience pour lui présenter son portrait. Et il m'avait emmené avec d'autres personnes avec lui. Nous avions de bonnes places, c'est une audience publique bien sûr. Et alors, nous avons pu approcher le Saint-Père. Je me suis agenouillé, ce que peu de gens font maintenant. Ça s'appelle cette cérémonie, ça s'appelle le baisement, il baciamano. Et je me suis donc agenouillé, j'ai baisé la main, et j'ai dit, très Saint-Père, je vous apporte un livre que votre prédécesseur avait déjà ordonné qu'il fût apporté à Rome, votre prédécesseur Honorius III en 1227. Mais, et à ce moment-là, j'ai pointé le doigt, semblant faire la leçon au pape, les photos en témoignent, ut comburatur, pour être brûlé. Oh, je n'ai pas peur que mon édition subisse le même sort, car vous avez écrit, et à ce moment-là, j'ai joint les mains en signe de reconnaissance, car l'an dernier, vous avez parlé très bien de John Scott Erigène. Je vous en remercie très chaleureusement, quelque chose comme ça.
Au Moyen-Âge, on réagissait assez vivement à tout écart qui pouvait laisser craindre la naissance d'une hérésie.
C'est ça, et c'est-à-dire, d'ailleurs, il a été condamné trois siècles après sa parution, n'est-ce pas? De son temps, John Scott n'était pas inquiété du tout, parce qu'il était invoqué par certains hérétiques, justement, pour le... à cause de ses idées un peu audacieuses. Voilà.
Donc Jean Scott Erigène était donc un auteur que vous avez particulièrement étudié du IXe siècle, mais vous vous êtes aussi intéressé, comme vous l'avez dit, au XIIe siècle, en particulier à Guillaume de Conches.
Oui, Guillaume de Conches, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lui. Il était probablement un maître laïque, je suppose. Mais nous savons qu'il enseignait près d'une cathédrale dédié à la Vierge Marie. Alors évidemment, il y a deux cathédrales qui se le disputent, Notre-Dame de Chartres et Notre-Dame de Paris. Il y a d'autres Notre-Dame, mais en fait, ce sont les deux.
Vu le prestige de l'auteur, il ne pouvait enseigner qu'à l'une des deux.
Mais Notre-Dame de Paris ne me paraît pas, ou plus exactement, Notre-Dame de Chartres me paraît avoir plus de chance que Notre-Dame de Paris. Je ne peux pas démontrer absolument, mais il parle beaucoup de différence entre les Chartrains et les Normands. Lui-même était un Normand. La prononciation chartraine du latin et la prononciation normande du latin. Ces allusions à l'école de Chartres, à Chartres, me semblent indiquer qu'il avait quelques familiarités avec cette église. Et à la fin de sa vie, il s'est réfugié à la cour du duc de Normandie, Geoffroy le Bel, père de Henri II, qui devait devenir roi d'Angleterre. Et mes rapports avec Guillaume de Conches ont commencé assez tôt. Il a écrit un commentaire assez intéressant, précisément sur le Timée de Platon. Et j'ai édité ce commentaire, et même je l'ai réédité avec plus de soins, encore il n'y a pas trop longtemps. Et il y a une petite sous-collection dans la collection des Pères de l'Église, la collection de la continuation médiévale des Pères de l'Église chez Brepols. Je ne fais pas de réclame pour les choses.
Si, si, faites.
Et là, je suis responsable de l'édition de ces œuvres, c'est-à-dire de trouver des collaborateurs et aussi de les corriger quand je peux. Donc, je suis en train de faire ça pour le moment à Toronto avec quelques étudiants.
Oui, il serait intéressant effectivement de rappeler à nos auditeurs que vous êtes la moitié de l'année au Canada où vous enseignez.
Je n'enseigne plus parce que l'âge a passé, mais j'ai une petite subvention qui me permet de payer des étudiants, lesquels ne travailleraient pas pour mes beaux yeux. On me les choisit parce que j'ai des amis là. Et je suis étonné de la qualité de ces. Il y a des Américains et des Canadiens. Je suis étonné de leur qualité.
Monsieur l'abbé Édouard Genot, je vous remercie beaucoup d'être venu chez nous, ici à Chartres, prendre le temps de parler à nos auditeurs, ici à Radio Grand Ciel, sur vos ouvrages écrits au sujet des écoles de Chartres, la philosophie médiévale. Donc, à tous les auditeurs qui sont intéressés, nous pouvons recommander tous vos ouvrages, très importants pour ceux qui s'intéressent à Chartres plus particulièrement. Donc, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée également à tous les auditeurs de Radio Grand Ciel. Je remercie Christophe à la technique et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission où j'espère que nous allons pouvoir continuer notre entretien sur la philosophie médiévale.
Merci.